Europe 1, il est 8h.
Moi, j'ai certaines femmes qui me disent « mais je préfère mourir plutôt que de retourner là-bas ». La France doit se dépêcher d'organiser des rapatriements là tout de suite.
800 proches de djihadistes, femmes et enfants échappés des geôles kurdes en Syrie alors que l'offensive turque s'intensifie. Parmi eux, des familles de djihadistes français, la crainte d'une résurgence de Daesh.
Dans ce contexte, un match de football sous haute tension. France-Turquie ce soir au Stade de France, tension redoutée dans les tribunes, enjeu assuré sur le terrain.
Christian Jacob, confortablement élu président des Républicains. Sa mission, redresser le parti LR. Mission impossible, juge certains. Christian Jacob, lui, mise sur les territoires et le rassemblement.
J'ai senti un vrai engagement, une vraie mobilisation pour le rassemblement. Et maintenant, rendez-vous au municipal.
L'inquiétude des professionnels français de la cigarette électronique, la polémique venue des États-Unis suite à une série de décès et qui fait craindre dans l'Hexagone un abandon de la vape et d'un retour du tabac pour des millions de Français.
Il y a des gens qui sont malades aux États-Unis, mais liés à un détournement d'usage normal du dispositif.
8h15, votre invité politique, Sonia.
Frédéric Pechenard, ancien directeur général de la police nationale, vice-président LR de la région Île-de-France, programme l'international qui nous concerne au premier plan, l'offensive turque, les djihadistes dans la nature. Et puis sur la scène politique française, Christian Jacob, nouveau président LR, pour redresser le parti, on en parle.
8h01, bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Au nord de la Syrie, chaos et confusion. Près de 800 proches de djihadistes, femmes, enfants, échappés des geôles kurdes, alors que l'offensive turque s'intensifie. Une situation qui représente une menace importante, notamment pour la France. Beaucoup d'experts affirment depuis des années que ces femmes sont des djihadistes comme les autres, tout aussi dangereuses que les hommes.
Que faut-il alors faire pour ces proches de djihadistes français? Le débat toujours délicat. Faut-il les rapatrier? Faut-il les laisser sur place? Écoutez Marie Dosé, avocate de certaines de ces familles. Le risque, c'est que Daesh les récupère.
Pour l'instant, ces femmes et ces enfants avec qui je suis en contact sont sur la route, seules, livrées à elles-mêmes, à 2h30 de voiture de la Turquie, à 50 km de Raqqa, entre les bombes, avec des gamins qui sont extrêmement jeunes puisque les deux tiers ont moins de 5 ans. Elles sont juste dans l'attente de rien, personne. Sauf Daesh qui va finir par les trouver. La France doit se dépêcher d'organiser des rapatriements là tout de suite. Obtenir un cessez-le-feu d'Erdogan quelques heures ou quelques jours et rapatrier tout le monde. Sinon, c'est la dispersion. On sait très bien comment l'État islamique est né et où il est né. Il est né là-bas, dans ses prisons, dans ses camps. Moi, j'ai certaines femmes qui me disent « mais je préfère mourir plutôt que de retourner là-bas ». Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de leur livrer, mais je l'avais dit. Nous l'avions tous dit.
Maître Marie Dosé, avocat des familles de djihadistes français au micro européen de Sophie Echen.
Bonjour Alain Richard.
Bonjour.
Ancien ministre de la Défense, sénateur La République En Marche aujourd'hui. Quelle doit être selon vous notre position? Doit-elle évoluer? Est-ce que oui ou non il faut rapatrier ces familles de djihadistes qui sont sur place?
Ce ne sont pas que des familles de djihadistes. Ce sont les personnes qui se sont sciemment, volontairement engagées pour construire l'État islamique au moment où cette offensive politique dictatoriale se déroulait. Donc, de les présenter aujourd'hui comme de simples victimes est un travestissement de la réalité. Ce sont des personnes dont la situation ne peut être évaluée qu'en pensant d'abord à la sécurité des Français. Ma conviction, c'est que le gouvernement, jusqu'à présent, a eu raison de les maintenir sur place et de les maintenir sous le contrôle des autorités kurdes de cette région.
Autrement dit, Alain Richard, pour vous, ce sont de véritables bombes à retardement que nous pourrions faire venir sur notre sol?
Mais justement, je pense que ce sont des personnes qui sont des djihadistes, ce sont des personnes qui se sont engagées en sachant ce qu'elles faisaient aux côtés de combattants de l'État islamique, et donc nous les considérons, nous devons continuer à les considérer comme des personnes engagées
mais
dans une
France. Alain Richard, est-ce que la donne a changé ce matin?
La donne a changé du fait que des gens qui les avaient arrêtés et détenus, d'ailleurs en ayant fait des procès corrects du point de vue des droits de la défense, n'ont plus là aujourd'hui la possibilité de les contrôler. Donc c'est vrai que c'est un sujet nouveau, mais la priorité quand on analyse leur situation, c'est la sécurité des Français.
Merci Alain Richard.
Qui se sont engagés contre nous.
Merci Alain Richard, ancien ministre de la Défense, sénateur de La République En Marche. J'ajoute que le président français Emmanuel Macron, qui réunissait hier soir un conseil de défense, a demandé à la Turquie la cessation immédiate de l'offensive. Donald Trump, pour sa part, a ordonné le retrait de la quasi-totalité des soldats américains en Syrie.
Et pendant ce temps, les troupes turques avancent encore dans le Kurdistan syrien. Sixième jour de guerre, plus de 130 000 déplacés, 160 morts chez les Kurdes. et un conflit qui présente le risque majeur de voir Daesh renaître de ses cendres.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Mathieu, bonjour Sonia.
Une chose est sûre, rien ne semble arrêter le Turc Erdogan, ni les menaces, ni les injonctions.
Mais il a baptisé l'opération « Source de paix », c'est de l'humour froid comme une morgue. Au sixième jour, la source ruisselle de sang, le sang des civils innocents tués dans les bombardements, le sang impur des 9 Kurdes exécutés sommairement par les supplétifs arabes que la Turquie emploie en première ligne. Autrefois, ces islamistes se battaient contre Bachar el-Assad et ils continuent la guerre civile, mais contre les Kurdes maintenant. Au sixième jour, la guerre simplifie toutes les équations. Les Kurdes, abandonnés des Américains, se précipitent dans les bras des Russes, c'était fatal. Ils appellent Bachar el-Assad au secours, triomphe du tyran. Les Américains désertent la guerre tribale. La semaine dernière, Washington parlait du repli de quelques hommes de la seule zone frontière, bat les masques. C'est le millier d'hommes qui remballent. Les djihadistes aussi font leur mal, les femmes et les enfants d'abord, avec la grande évasion du camp d'Aïn Issa, 800 prisonniers qui s'enfuient. Les pères et les maris suivront, c'est écrit. Les Européens, enfin, vont au bout de leur logique, celle de l'impuissance. Ils s'inquiètent, s'indignent, font les gros yeux. Après avoir convoqué le Conseil de sécurité jeudi, réuni un mini-conseil de défense hier soir, la France va poser le problème sur la table du Conseil européen jeudi. Autant allumer des cierges, c'est-à-dire ce que l'on fait, que l'on refera au prochain attentat.
Le regard de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h. Merci Vincent.
Il s'appelle Kais Saied, c'est le nouveau président de la Tunisie. Des scènes de liesse hier sur l'avenue Bourguiba à Tunis.
Très large victoire au second tour de ce juriste très conservateur, vainqueur avec plus de 70% des suffrages face à l'homme d'affaires Nabil Karoui.
En France, une autre élection, interne cette fois-ci. Christian Jacob, 59 ans, nouveau patron des Républicains.
Dès le premier tour, plus de 62% face aux députés Julien Aubert et Guillaume Larrivé. Un aboutissement pour celui qui était considéré comme un éternel second, ancien syndicaliste agricole, biberonné au chiracisme. Sa mission, remettre la droite debout, un véritable défi.
Sur les 7 années qui viennent de se passer, on a perdu beaucoup sur le plan national, 2 présidentielles, 2 législatives, l'échec des européennes, mais on a tout gagné sur les territoires. Et donc il faut s'inspirer de ce qui a fonctionné sur les territoires, c'est le rassemblement. Moi j'ai senti un vrai engagement, une vraie mobilisation pour le rassemblement, et maintenant rendez-vous au municipal. C'est là qu'on verra ce que pèse réellement la Macronie et le lepénisme. L'heure n'est pas aux ambitions individuelles pour l'élection présidentielle. L'heure aujourd'hui, elle est au rassemblement, au collectif, à la préparation d'un projet. Les ambitions individuelles, elles sont légitimes, mais ça n'est pas le moment.
Christian Jacob au micro européen de Claudia Bertram.
L'Europe au cœur de l'actualité à l'Élysée. Hier soir, Emmanuel Macron a reçu Angela Merkel 4 jours après le revers infligé au président français par les eurodéputés qui ont sèchement recalé Sylvie Goulard, la candidate française à la Commission européenne.
Dans ce dossier, le président se retrouve isolé. Comment tente-t-il alors de reprendre la main, Jean-Rémy Bodo?
Eh bien, Emmanuel Macron multiplie les rencontres à l'Élysée. Après Angela Merkel hier soir, il recevra ce matin la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avant de déjeuner avec le président du Conseil, Donald Tusk. Avec eux, le chef de l'État tente de comprendre pourquoi la candidature française a finalement été retoquée. Hier soir, il dénonçait les vaines querelles et les petites disputes en Europe. Mais le président français se retrouve fragilisé, notamment parce qu'Angela Merkel ne tient plus les conservateurs allemands qui ont torpillé Sylvie Goulard. L'enjeu pour Emmanuel Macron est désormais d'être sûr que le portefeuille de la France, appelé marché intérieur, reste bien dans l'état. Il est inconcevable de rediscuter ce périmètre, se persuade une source diplomatique. Pourtant, le risque existe. Sachant que le temps presse, le président Macron doit proposer dans les prochains jours un ou une nouvelle candidature. Le profil idéal est connu. Une personnalité avec de l'expérience de gouvernement, capable de conjuguer les intérêts français au sein de l'Europe, irréprochable sur l'éthique. Le problème, c'est que ce portrait robot ne correspond pas à grand monde au sein de la Macronie.
Jean-Rémy Bodo du service politique d'Europe 1, Emmanuel Macron, dont la semaine européenne se poursuivra mercredi à Toulouse pour un conseil des ministres franco-allemands et jeudi à Bruxelles pour 2 jours de conseil européen.
Et puis nous l'apprenons à l'instant, c'est une information qu'Europe 1 vous révèle. 5 personnes ont été arrêtées ce matin dans l'entourage de Michael Harpon, le tueur de la préfecture de police de Paris. Information d'Alain Acco du service police-justice de la rédaction. Europe 1. Vous restez bien avec nous dans un tout petit instant. Les cigarettes électroniques qui inquiètent les professionnels français tentent de rassurer après une vague de décès aux États-Unis. A tout de suite, la suite du journal de 8h pour en parler.
Europe 1, il est 8h10. Europe 1, il est 8h12, la suite du journal, Sonia Mabrouk, Mathieu Béliard.
2 millions d'utilisateurs en France. La cigarette électronique est désormais le premier outil d'aide à l'arrêt du tabac. Devant les patchs, devant les gommes à mâcher, 700 000 fumeurs ont arrêté depuis 2013, selon des estimations. Mais aujourd'hui, vapoter n'a plus la cote.
Parce qu'une série de décès d'utilisateurs de cigarettes électroniques est constatée aux États-Unis, les professionnels français, réunis à partir d'aujourd'hui à Paris, s'en inquiètent. Le reportage de Jean-Luc Boujon dans une boutique lyonnaise.
La boîte à vape dans le quartier de la Croix-Rousse, une boutique indépendante qui fonctionne bien depuis 3 ans, sauf que depuis 2 mois, c'est 20% de clients en moins, effrayés sans doute par les nouvelles alarmistes en provenance des États-Unis. Le doute s'est installé, raconte Bernadette, vapoteuse depuis un an, et carrément interpellée dans la rue.
J'avais ma vapote à la main et une dame s'est précipitée vers moi en me disant que c'était extrêmement dangereux, que je ne savais pas ce que je faisais, qu'il y avait des choses très graves, qu'il y avait des gens qui venaient de mourir. Arrêtez tout. Donc j'ai eu un peu des doutes. Elle m'a un peu fait peur.
Bernadette est donc allée chez Vladimir, le patron de la boîte à vape, qui lui a expliqué que le vapotage en France était bien plus réglementé qu'aux États-Unis.
Il y a des gens qui sont malades aux États-Unis, mais liés à un détournement de l'usage normal du dispositif. On sait que la problématique, elle est liée à des huiles qui ont été mises dans des produits qui ont été achetés dans la rue. Ça n'a rien à voir avec les produits français. En France, on a des déclarations obligatoires, on a des marques qui ont des agréments, on a des qualités sanitaires de produits. Un produit qui contient de la nicotine en France aujourd'hui, c'est 6 mois d'autorisation de mise sur le marché. On a des marques qui sont vraiment à la pointe en France, qui travaillent avec des médecins, avec des scientifiques, et qui sont dans l'optique de faire le produit le plus sain possible.
Un constat relayé aussi par les autorités médicales françaises, y compris Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui a confirmé le vapotage comme un très bon outil d'aide à l'arrêt du tabac. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et c'est évidemment plus qu'un match de foot ce soir, au Stade de France. 20h45, la France qui accueille la Turquie. Dès 20h, soirée spéciale sur Europe 1 bien sûr.
En cas de victoire, les Bleus seraient d'ores et déjà qualifiés pour l'Euro 2020, mais il y a aussi le contexte diplomatique avec l'assaut turc en Syrie, condamné par la France, et des supporters turcs qui seront très nombreux ce soir, sans doute plusieurs dizaines de milliers. Soirée tendue en perspective sur le plan politique et sur le plan sportif. Cyril de la Morinerie.
Il y a 4 mois, la France avait pris l'eau face à une Turquie déchaînée dans une ambiance assourdissante. Un non-match, la pire prestation des Bleus depuis le titre mondial. L'heure est donc au rachat, mais pas à une revanche, précise le sélectionneur Didier Deschamps.
Il n'y a jamais de revanche. Voilà, ils nous ont surclassés sur ce match chez eux. Là, c'est un autre match. C'est chez nous. C'est un match qui peut être décisif, bien évidemment, mais de faire en sorte que le match se passe différemment chez nous.
Malgré le manque de préparation, 3 jours seulement séparent le déplacement en Islande du match contre la Turquie. Les Bleus ont bien l'intention de finir le travail et de ne pas prêter attention au contexte particulier de cette rencontre. Car c'est une finale à gagner si les Bleus s'imposent ce soir. La qualification pour l'Euro 2020 serait dans la poche. Même un nul pourrait suffire en cas de contre-performance de l'Islande face à Andorre.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Europe 1.